RMC.
C'est pas officiel, je crois. Donc c'est encore des journalistes qui ont lancé ça, à mon avis, non?
C'est vrai que je suis abattu, je suis très triste. Ça fait très mal, mais je vais pas m'arrêter.
Ouais, de jouer au football, je serais prêt à même aller au Pôle Nord.
Le Super Football Show.
J'ai essayé Nietzsche, j'ai essayé Kant, etc. Bon, j'ai essayé Socrate, etc. J'ai essayé. Bon, j'ai pas réussi.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
À thème, il a mon portable, qu'il m'appelle.
Nicolas Villas.
Ravi d'être avec vous, soyez les bienvenus dans l'after. On est ensemble pendant 2 heures, on est ensemble donc jusqu'à minuit. Jusque là tout va bien, on vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live. Avec nous ce soir, Ali Benarbia. Bonsoir Prince Ali.
Salut Nicolas.
Ça va?
Ça va bien?
Ouais, les légumes s'incarnent.
Ne pas pas en cuir.
Je l'ai acheté, je l'ai reçu hier, celui-là.
Magnifique.
J'ai même en jaune.
Oh là, rien à dire.
J'ai refait un petit stock pour la Coupe du Monde.
Avec les drapeaux?
Il y en a certains, ouais, effectivement. J'en avais aucun en couleur de la France, notamment.
Donc déjà, le plus facile à trouver, le drapeau d'Algérie. Mais...
Non, ils ne sont pas à la Coupe du Monde.
Ah oui, c'est
ça,
j'avais oublié.
Ouais, ça peut me servir à quelque
chose. Mais on trouvera sûrement le drapeau.
Jonathan Macardy est avec nous. Bonsoir, Jonathan.
Salut, Nicolas.
Tout
salut,
tout de chemise ouverte.
Salut, Jonathan.
Avec son torse velu.
Ouais. Bon, l'Irlande, ils sont à la Coupe du Monde.
Au menu de l'after ce soir, alors l'avis tranché d'Ali, celui de Jonathan également, vous aurez le mien aussi. On ira en Angleterre avec les avis tranchés de Philippe Auclair, celui de David Dartolari pour l'Allemagne. Simone Rovera sera également avec nous avec un avis tranché italien. On ira en Grèce également ce soir. Ça qui est une grosse actu, assez lourde d'ailleurs en Grèce en ce moment. Le PAOK qui a perdu des points avec un président qui a interdit de stade pendant 3 ans. On sera en direct avec François Modesto, directeur sportif de l'Olympiakos, dont le président est dans la tourmente et qui a aussi perdu des points en classement. On y reviendra dans quelques instants. Et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire au quiz. Jérôme Thomas vous a préparé un petit truc aux petits oignons également. 32-16 pour vous inscrire pour le quiz de l'after. Il est pas mal ce soir. Hein. Il y a eu pas mal de plaintes ces derniers temps, mais je peux vous dire qu'il est pas mal et l'affaire est sympatoche. Oh, parce que la semaine dernière, il y en a un qui n'avait pas été très
bien. Il était très bien, celui avec les prénoms féminins. Écoute,
on les a battus à plate couture, hein, Jonathan.
T'as donné combien de réponses, toi? C'est en l'année en plus, ouais.
Jonathan, même un peu plus. On les a laissés revenir.
Ouais, la remontada. Les résultats de la 31e journée de Ligue 2 qui vient de s'achever, un partout entre Orléans et Brest. Auxerre a battu Bourg 3-1 avec un triplé de Philippe Auto. Nîmes s'est imposé 1-0 face à Valenciennes. Victoire de Quevilly-Rouen au Havre dans le derby normand où il y a eu des envahissements de terrain également du côté du stade Océane. Un partout entre Niort et Sochaux.
D'Ajaccio.
Ouais, un bon point aussi pour le Gaz qui joue sûrement le maintien sur la pelouse du PFC, 0-0. La Lanterne Rouge Tour s'est imposée 3-1 face à Lorient, ça c'est une surprise également.
Lorient.
Et l'AC Ajaccio a gagné 2-1 face à Clermont. Alors c'est un résultat qui a son importance, puisque Reims est toujours leader, Reims qui n'a pas encore joué avec 8 points d'avance sur Nîmes.
Surtout Clermont qui était pas loin.
L'AC est 3e avec 57 points, ils ont 4 points d'avance maintenant sur Lorient qui est donc 4e. Lorient qui a 53 points, c'est autant que le PFC. Et en bas de tableau, on retrouve Nancy qui est en position de barragiste avec 28 points et avec un match en moins sur Bourg. On a Quevilly-Rouen avec 28 points également et Tours qui est toujours dernier avec 18 points aussi. Voilà, ça se resserre également. Et on vous le rappelle, donc un avancement de terrain du côté du Havre lors du match entre le Havre et Quevilly-Rouen. Il y a également du rugby ce soir. Quart de finale du Challenge européen. Paul Lafitte suit le match entre Pau et le Stade français. Salut Paul.
Salut Nico, salut l'after, bonsoir à toutes et à tous. Paul.
Alors, on en est où mon polo?
C'est un scénario assez incroyable, Nico, car les Bernais ont rapidement mené 27-7. On pensait que cette équipe du Stade français, on le sait, mal en point en top 14, eh bien, lâcherait l'affaire. Et il y a eu un essai juste avant la mi-temps transformé par Jules Plisson. Et puis au retour des vestiaires en l'espace de 4 minutes, il y a eu une pénalité par Jules Plisson. Un essai de Djibril Camara transformé par Jules Plisson. Et au tableau d'affichage, les Bernais n'ont plus que 3 points d'avance, 27-24. On joue seulement depuis 6 minutes en deuxième mi-temps. Les Parisiens sont en train de se rebeller. C'est assez surprenant, mais le match devient très intense, très serré, donc le score de 27-24 en faveur de la section paloise.
Merci Paul. Tiens, je vous donne un autre résultat également. Ça joue aussi entre Newcastle et Brive, toujours le quart de finale du Challenge européen. Et 12-10 pour l'instant pour les Anglais de Newcastle. Demain, il y a la finale de la Coupe de la Ligue, messieurs. Le Paris Saint-Germain face à l'AS Monaco. On va avoir vos avis tranchés, notamment sur ce thème. Demain, il y a la finale de la Coupe de la Ligue, donc, qui sera à suivre sur RMC, bien entendu. Il y a aussi le tournoi à Montferrier-sur-Lèze pour l'équipe U9 du GFL. Voilà, bon courage à Laurent, au Doluca, à Luc, à Louis Corentin, Cyprien, Nathan, Florian, Léandro et aux parents également. Voilà. Et à coach Laurent, bien sûr, qui va suivre cette équipe. C'est les U9, ça joue. Si vous avez des petits messages, parce qu'il y a pas mal de tournois en cette fin d'année des plateaux, et ben, l'after est aussi là pour ça. Quelques infos également qui concernent les groupe du Paris Saint-Germain et de Monaco demain. Thiago Motta est suspendu, Neymar est toujours blessé. Dans le groupe du PSG, il y a 20 joueurs. Il y a la présence de Timothy Weah, notamment le fils de Georges. Et du côté de l'AS Saint-Etienne, Baldé est forfait. Il est touché à la cuisse. Benaglio, Pellegrini et Traoré sont toujours forfaits également. On va passer à vos avis tranchés. On vous attend au 32-16. On va se projeter sur cette finale de la Coupe de la Ligue de demain entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. On va commencer par ton avis tranché, mon cher ami.
L'anniversaire du FC Niort qui fête ce soir ses 90 ans. Alors,
c'est pas une chèvre sur le drapeau, c'est ça?
Un chamois.
Et Niort qui a fait match nul un partout ce soir. Ton avis tranché qui concerne cette finale de la Coupe de la Ligue, Ali, et toi, tu es optimiste pour demain?
Optimiste pour le jeu de cette finale de la Coupe de la Ligue, sous prétexte que ces deux équipes sont assez équilibrées à ce moment-là, mais surtout offensivement, je pense que le quatuor de Monaco peut être aussi fort que le trio parisien qui sera normalement de Di Maria, s'il sera là avec Cavani et Mbappé. Et ce quatuor, là, Ronny Lopez, Lemar qui revient bien, Jovetic et Falcao. Et surtout, face à des défenses, on l'a vu, celle de Monaco qui est moins forte que la saison dernière, donc qui laisse beaucoup plus d'occasions. Et celle du PSG qui, tout le temps, a pratiquement souvent encaissé un but. Et puis là, je pense qu'ils ils seront pas autant affûtés qu'ils le sont dans les gros matchs, et c'est pour ça que je pense qu'il y aura là aussi, pas du laisser aller, mais bon, un peu moins d'agressivité, et va permettre à cette équipe de Monaco de planter aussi des buts. Donc je vois ces deux équipes avoir des actions offensives, avec des blocs, tu vois, un petit peu espacés des deux côtés, un petit peu coupés dans un match où chacun voudra prendre le dessus sur l'autre, mais beaucoup plus offensivement que défensivement. Je vois pas du tout les Monégasques qu'attendent les Parisiens, je vois pas les Parisiens non plus faire la même chose. Donc ça va attaquer d'un côté et de l'autre, et si, je le dis bien, ce match débute par un but au bout de 5-10 minutes d'un côté ou de l'autre, là ça va partir de tous les côtés, et on a de quoi offensivement créer en plus d'occasion, marquer beaucoup de buts. Donc c'est pour ça que je pense que ça va être une belle finale offensive, et ça fera plaisir.
Ils sont rarement décevants quand même, hein, les matchs entre Monaco et le Paris Saint-Germain ces dernières saisons. Il y a eu 16 buts sur les 4 derniers, hein, par exemple. Voilà. Il y a eu 4-1 pour le Paris Saint-Germain, c'était la finale de la Coupe de la Ligue la saison dernière. La demi-finale de Coupe de France, il y a eu 5-0 pour le Paris Saint-Germain. Il y a eu 2-1 lors des deux dernières confrontations. Alors il y a le trophée des champions et le match de championnat. On rappelle que le PSG va jouer face à Saint-Etienne. Ils vont rejouer Monaco derrière, hein, également en Ligue 1. Ton avis sur l'avis tranché de Jonathan,
Écoute, on peut être que d'accord, hein, c'est deux équipes qui ont un fort potentiel offensif, avec des défenses qui sont pas toujours, qui sont beaucoup moins fortes que ce qu'elles ont pu être par le passé. Mais ce qui m'intéresse le plus, en fait, dans ce match-là, c'est que j'ai l'impression, alors je me trompe peut-être, parce que c'est vrai que c'est difficile avec le nombre réduit de supporters, on va dire, ultra, du côté de Monaco, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de petite historique, de petite rivalité qui se construit cette année entre le Paris Saint-Germain et Monaco. Il y a eu le titre que Monaco a gagné l'an dernier. Il y a eu cet été l'épisode avec Fabinho. On peut dire que Paris a gâché. Paris a retourné la tête du joueur qui a mis 3-4 mois à 100 mètres. Mm-hmm. Il y a Kylian Mbappé qui est passé d'un camp à l'autre. Écoute, moi j'aime bien ce genre de match où tu vois, enfin, après la finale perdue, il y a une sorte d'esprit de revanche du côté monégasque. Et j'ai l'impression qu'on peut voir un match outre le fait de voir un match offensif, mais voir un match avec beaucoup d'engagement.
Alors, il y a un truc qui est important aussi, parce que tu le dis, les joueurs de Monaco sont motivés. On l'a vu aujourd'hui, notamment Marco Verratti en conférence de presse. C'était parisien aussi, hein, c'est-à-dire ils n'ont pas le droit à l'erreur. Verratti l'a dit aujourd'hui en conférence de presse. Bon, tout ne sera pas perdu, tout ne sera pas acheté, même si on gagne pas la finale de la Coupe de la Ligue. Mais c'est vrai que le fait que le PSG ait raté un peu sa saison, notamment en Ligue des Champions, ils sont vraiment dans l'obligation de gagner ce match aussi. Ça rajoute du piment un peu quand même.
Ben, personnel pour eux spécialement, pas dû que au coach et aux dirigeants de se faire battre par l'AS Monaco en finale de la Coupe de la Ligue, ça voudrait dire beaucoup de choses. Puisque n'oublions pas que Monaco a laissé partir 3-4 meilleurs joueurs. Donc on se dit, s'ils battent le Paris Saint-Germain avec cet effectif-là, qu'est-ce que ça aurait été au niveau du championnat si les Bernardo Silva, les Mendy, comment il s'appelle, Bakayoko serait resté, peut-être qu'ils auraient pu...
Même Carrio est parti, hein, même s'il n'était pas toujours sûr.
Mais il peut-être marquait des buts en rentrant.
Peut-être que la même équipe de la saison dernière aurait pu être aussi champion s'il les battent en finale de la Coupe de la Ligue. C'est pour ça qu'il faudra faire attention.
On va accueillir Guillaume, supporter de l'ASM. Il a fait le 32-16 et il est en direct dans l'after. Bienvenue Guillaume, salut.
Salut à tout le monde.
Salut Guillaume.
Salut, Guillaume.
Bonjour monsieur Ali Benarbia.
Bonjour.
Bonjour monsieur, je dis, parce que les gens de Monaco... autant que Thierry Henry et tout ça, c'est des gens qui m'ont fait rêver. J'adore. Merci.
On ne faut pas déconner non plus. Hein.
Si, faut déconner. Avec Ali Benarbia, si, bien sûr, on est obligé.
Ali Benarbia qui sera l'invité de full time sur SFR Sport lundi soir. Parce que, alors, on ne va pas accueillir d'ailleurs l'ancien champion de France, on va accueillir l'ancien joueur de Manchester City. Mmh. Voilà, petite parenthèse.
Ah. Bon, de toute façon, Monaco a tellement desservi pas mal de personnes que donc c'est bon. Il y en a un peu partout.
Alors, est-ce que tu es aussi optimiste qu'Ali, toi, pour la finale de la Coupe de la Ligue demain? Ali est optimiste globalement.
Pourtant, je suis un monégasque, j'ai 37 balais, ça fait 37 ans que je suis pour Monaco. Attends, je suis parisien, enfin, j'habite dans le 77, enfin, j'habitais dans le 77 et on aime bien la culture offensive de Monaco. Mais au départ, je la voyais en vice par Jardim. On se fait pas avoir, on va leur mettre un petit peu à la revanche de l'année dernière. Donc, mais là, le fait qu'ils aient perdu la. Qu'ils soient fait dérouter comme d'habitude les Parisiens en Coupe d'Europe, et le fait que Rabiot, des gars comme Rabiot, ils aient perdu leur place en équipe de France, ils vont être revanchards. Et ça me fait chier parce que. Du coup, Monaco, je les voyais bien la prendre, mais là, les gens, Emery, il sait qu'il va sauter, donc du coup, il va vouloir faire un truc d'énervé. Je sais pas, au départ, je voyais Monaco parce que les gens sont revanchards, mais là, même Paris va être revanchard.
Ouais, je suis d'accord avec toi dans le sens où cette équipe de Paris ne veut. Ouais, ils veulent pas se manquer. Surtout une finale, tout le monde va les regarder. Il y en a, et faut pas oublier qu'il y en a qui vont gagner un petit peu leur place en Coupe du Monde, aussi bien
exactement.
Côté parisien.
C'est ça qui me fait peur. Que côté monégasque. Monaco, moi, je la voyais à l'envers.
Même côté monégasque.
Ouais, non, mais Neymar, c'est bon. Sidibé, c'est bon. Après, à Monaco, il y a que les deux.
Mmh, ouais, mais d'être quand même bon, c'est
après, t'as des mecs qui peuvent.
Ouais, Ronny Lopez,
quoi. Ouais, voilà, Ronny Lopez, il a. Bon, même si ça paraît
peu
probable.
Oui, c'est vrai.
Ouais, non, il y a quand même des joueurs qui peuvent.
Ouais, les joueurs, hein, qui veulent se montrer. Puis attends, c'est aussi une fin de saison. Et pour un joueur en fin de saison, pour être intéressé dans les clubs, il y a beaucoup de monde, ça va être diffusé. Ce match-là, PSG-Monaco, va être beaucoup diffusé. Donc, tout le monde va vouloir se montrer.
C'est vrai que la Ligue a fait beaucoup d'efforts.
Oui, c'est vrai.
Pour la promotion de la Coupe. Alors, la Ligue 1, on le savait déjà, mais pour la Coupe de la Ligue également. C'est vrai que ça devient un événement. Là, l'affiche est belle parce que c'est les deux premiers championnats.
Elle est magnifique. Ouais. Moi, je vais la regarder. Mais c'est deux attaques, ça peut péter. Ouais. S'il y a un but d'aller premier, non, c'est Ali qui disait, s'il y a un but d'aller à la sixième minute, ça va être un match de dingue.
Ah oui,
mais t'es confiant quand même pour l'AS Monaco ou pas, toi, Guillaume, supporter de l'AS?
J'étais confiant jusqu'à temps que je vois des gens comme Rabiot. L'équipe de France, ça m'a saoulé. Je me dis, putain, ils vont être vénères, ils vont louper leur truc, ils vont tout montrer sur cette Coupe de la Ligue. Donc du coup, ils vont tout lâcher à ce moment-là.
Tiens, un petit mot également, parce que tout à l'heure, tu parlais de possible quatuor offensif. Alors, Jardim, aujourd'hui, en conf de presse, il a expliqué qu'il y aurait très, très, très peu probablement et Falcao et Jovetic en attaque. Hein.
Pourquoi? Parce que, apparemment.
Alors, il parle de complémentarité en termes de profil qu'il avait essayé, que ça dépendait du match, etc.
Je pense aussi parce que le fait qu'il n'aura pas Baldé sur le banc.
Ouais.
Donc, est-ce qu'il va pas garder un joueur offensivement? Parce que si d'un coup Falcao se blesse ou Jovetic, il va se retrouver un petit peu avec un joueur en moins, s'il doit égaliser ou s'il doit marquer. Mais bon. J'aimerais tellement que cette équipe de Monaco joue à la fois avec Ronny Lopez, avec Lemar. Puisque Lemar.
Fabinho de dingue.
Et puis t'as vraiment ces deux joueurs qui, plus d'être bons, ils ont du volume. Tu vois, ils peuvent se déplacer de partout. Et ça peut aider à la fois Moutinho et Fabinho au milieu de terrain.
Merci Guillaume de nous avoir appelé en tout cas.
Je vous en prie.
Belle finale à toi.
Merci
demain,
Guillaume.
Ah, belle finale et puis beaucoup d'intensité et puis un très beau match.
Et c'est tout ce qu'on souhaite. Merci Guillaume.
Allez Monaco quand même.
Ciao. Il y en a un qui va pas être d'accord avec toi, c'est Alexandre qui nous a appelé au 32-16 lui aussi. Et Alexandre, lui, est supporter du Paris Saint-Germain. Salut Alexandre.
Salut messieurs.
Salut Alexandre.
Bon Alexandre, on avait un supporter de l'ASM qui était chaud bouillant, plutôt confiant. Alors confiant, oui et non, il l'était jusqu'à ce qu'il voit l'équipe de France et ils se disent qu'il y a des mecs qui ont leur place à jouer en Coupe du Monde. Comment tu la sens toi cette finale de la Coupe de la Ligue? Déjà, est-ce qu'elle te fait vibrer? Alors même si t'espérais d'autres choses, j'imagine il y a encore quelques semaines pour le PSG, mais.
C'est clair. Bah en fait. Oui, enfin, il y a deux raisons pour lesquelles on doit gagner cette Coupe de la Ligue. La première, c'est qu'on est le quadruple tenant du titre et également recordman de victoire dans cette compétition. Et la deuxième raison, c'est que au même titre que la saison dernière, on s'est fait sortir en huitième de finale par pas cette année par par le Barça mais par le Real de Madrid. Et l'année dernière, bah les Monégasques qui étaient en train de construire petit à petit leur château, les amenant au titre de champion de France, sont arrivés en finale hyper confiants et au final ça s'est terminé par un score de 4-1. Donc je pense que vu la déclaration de Verratti aujourd'hui sur l'obligation du Paris Saint-Germain de gagner cette compétition, je pense qu'aujourd'hui au sein du club parisien, malgré toutes les transformations qui vont arriver jusqu'à l'année prochaine, je pense qu'ils vont prendre ce match très au sérieux, donc je suis plutôt confiant. Après, je respecte bien sûr Monaco, et on sait très bien que sur une finale, bah, tout est possible. Je pense que Guignon nous l'a malheureusement prouvé il y a quelques années.
Oh, ça, tu l'as connu, Ali,
compétition.
Oui, cette finale contre Guignon, bah, je crois. Hein.
J'étais le capitaine, ouais.
Et alors
bah, Guignon a fait un gros match, et nous, on est passé au travers.
Comment tu l'expliques, ça, justement?
C'était... Bon, de notre côté, c'était pas le PSG, grosse équipe, même si on avait fait une bonne saison, tu vois. Ouais. Et le fait que cette équipe de Guignon se battait, ben, t'arrives pas à finale comme ça, je veux dire, même si t'es d'une Ligue 2, mais on aurait dû marquer les premiers, gérer, on a bien vu le gros PSG face à Auxerre, alors que Auxerre, c'est pas le Auxerre d'avant. Ils ont eu quand même des problèmes, ils ont quand même réussi à gagner 0, ouais. Alors que nous, on n'était pas le PSG de maintenant, on n'avait pas autant de qualité que ça, mais on aurait dû dominer. Ouais. Et gagner sur l'équipe de Guignon.
Vous étiez quand même gros favori face à Guignon à l'époque.
Ah non, plus que favori. Ah ouais, c'était une Ligue 2 qui puisait Guignon et nous, le Paris Saint-Germain. Mais là, le gardien a sorti le match à ce moment-là et cette équipe de Guignon.
C'était quoi? C'était Trivino déjà ou pas à l'époque?
Oui, il avait
Richard,
été.
Qu'on embrasse Richard.
Il avait été énorme. Quel gardien. Mais là, le match, il avait été énorme. Et moi, à la fin du match, même si on a perdu, je suis allé féliciter les joueurs de Guignon parce que j'ai joué longtemps en Ligue 2 et j'aurais bien aimé que ça m'arrive de gagner contre le PSG en finale de la Coupe de la Ligue.
Bon, après, je voudrais juste préciser une chose. J'ai pas du tout dit ça pour mettre allé en difficulté. Je l'adorais comme joueur, mais je l'adore encore plus comme consultant. Donc, je tiens quand même à préciser. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je suis très confiant pour demain.
Qu'est-ce qui te fait flipper? Qu'est-ce qui te ferait flipper côté monégasque? Si tu flippes d'ailleurs, peut-être pas. Hein.
S'ils prennent un but d'entrée.
Bah, il y a ça effectivement. Et à un moment donné, cette équipe monégasque nous a prouvé quand même cette saison qu'elle était assez, elle était capable vraiment du meilleur comme du pire. L'année dernière, ils étaient très performants offensivement. Il y avait une régularité, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1, qui était assez impressionnante. Et du coup, moi, c'est vrai que Paris, sur cette finale, m'avait particulièrement étonné. Cette année, Monaco nous a prouvé à domicile contre Marseille qu'ils étaient capables de faire des choses exceptionnelles, mais également en Ligue des Champions, avec des travers contre des équipes qui étaient a priori prenables pour cette équipe.
Et après, donc, tu sais, Alexandre, c'était en début de saison, c'est pas vraiment la même équipe. Jardy, encore là demain, il y a quand même Baldé qui est absent, mais ça fait, au final, le duo qu'on a envie de voir à Monaco, c'est Jovetic avec Falcao, il a quasiment jamais pu les aligner, notamment au début de saison où t'avais Jovetic qui était pas dans son assiette, donc je pense que ça serait une grosse erreur de comparer le Monaco de la Ligue des Champions à ce Monaco là. Après, ce que tu dois craindre à mon sens de Monaco, c'est pas tant qui marque le premier but, c'est pas forcément c'est pas forcément devant. Je vais regarder avec beaucoup d'attention au milieu de terrain comment ça va se passer, comment Fabinho et Moutinho vont gérer je sais pas qui jouera, mais vont gérer le milieu parisien.
Justement, Jonathan, qu'est-ce que tu penses du fait que, parce que c'est arrivé sur des réseaux notamment parisiens, du fait qu'il y ait cette sortie de la possibilité que Fabinho signe au PSG l'année prochaine quelques jours avant la finale? Est-ce que
c'est un classique, et je pense que autant, tu sais Alexandre, on sait que ça l'a perturbé cet été et qu'il a mis du temps à se remettre. Voilà, c'est la fin de saison, le mercato n'est pas commencé, c'est un trophée à gagner.
Dire l'inverse, hein. C'est plutôt un truc qui peut l'exciter plutôt que le décourager.
Nicolas, il sait qu'il va partir à la fin de la saison. Voilà quoi. Enfin, il va donner. Moi, je pense que ça doit lui passer au-dessus.
Merci Alexandre de nous avoir appelé.
Ciao Alexandre.
Avec grand plaisir. Bonne
soirée. Merci, belle soirée, belle finale à toi aussi, Alexandre. Tiens, on va faire un petit tour du côté du rugby. Pau, Stade Français, quart de finale du Challenge européen. Paul Lafitte.
Quasiment à l'heure de jeu, Nico, la section paloise qui s'est donné un petit peu d'air avec un essai au forceps de Quentin Lespieux, le talonneur béarnais, essai qui n'a pas été transformé. Et Jules Plisson va tenter une pénalité pour ramener encore une fois le Stade Français à 5 petites longueurs de la section paloise. Ce quart de finale est très disputé, donc quart de finale 100% français. On le rappelle, entre la section et le Stade Français, pour l'instant, les Bernais mènent 32-24, encore 20 minutes à jouer.
Merci Paul Lafitte, et toujours 12-10 pour Newcastle face à Brive. Dans quelques instants, l'avis tranché de Jonathan McCarty et concerne Thomas Tuchel, qui est annoncé du côté du Paris Saint-Germain comme possible futur entraîneur du PSG. Laurent Fala vous pose la question sur le compte Twitter de l'After. Tuchel au PSG, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Et pour l'instant, vous êtes, je le dis pas, je vous le dis juste après ça.
RMC. RMC, le Super Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Avec Jonathan McCarty, avec vous également sur le hashtag RMC Live et au 32-16. Tiens, qui dit hashtag RMC Live dit compte Twitter de l'After. Laurent Folle, notre community manager, vous pose la question. Tourelle au Paris Saint-Germain, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Pour l'instant, vous êtes 59% à répondre. Une très mauvaise idée, 41% à répondre que c'est une bonne idée. Pourquoi cette question? Parce que c'est l'une des infos du jour. Alors c'est vrai qu'en ce moment, c'est un jour un coach, hein, du côté du Paris Saint-Germain. Ouais. Il y a pas mal d'informations. Le quotidien Bild qui avait annoncé eh bien, des discussions avancées entre le Paris Saint-Germain et Thomas Tuchel. Voilà, la rédac RMC Sport a bossé et visiblement, ça discute effectivement avec Tuchel. Ça ne veut pas dire que c'est le seul d'ailleurs du côté du Paris Saint-Germain. On a eu l'avis tranché il y a quelques instants d'Ali Ben sur la finale de la Coupe de la Ligue qui opposera demain le Paris Saint-Germain à l'AS Monaco. L'avis tranché de Jonathan McCarty, il concerne d'ailleurs ce Thomas Tuchel. L'avis tranché de Jonathan.
Jonathan, très bon dans le...
Meilleur en MMA qu'en foot.
Ah bah oui, souvent je comprends rien quand il parle de football. Là, j'ai tout compris.
Alors tiens, pour te suivre dans cet avis tranché, on va accueillir l'autre drôle de dame allemande, à savoir David Lortolari qui est avec nous. Salut David.
Allô Freunde, salut messieurs, salut à tous.
Ça va mec ? Salut, rebonjour David.
Ça va très bien, merci.
Alors écoute, on va écouter l'avis tranché de Jonathan McCarty, on aura besoin de tes lumières juste derrière.
Bien sûr.
Jonathan, quel est ton avis sur ce Thomas Tuchel et cette information, l'info du jour ?
Eh ben mon avis tranché, c'est que Thomas Tuchel au PSG, ce serait un très gros risque qu'il ne s'agit pas de prendre maintenant. Pourquoi ? Alors premièrement, c'est une évidence pour tous ceux qui ont vu les équipes de Tuchel jouer, en particulier le Borussia Dortmund. C'est un super tacticien, c'est un super entraîneur. C'est un entraîneur qui est capable de mise en place, de mettre en place des équipes d'un raffinement tactique assez extraordinaire, avec des équipes qui changent de schéma en cours de jeu, qui jouent à 1000 à l'heure. C'est très vertical. C'est un entraîneur qui est passé quand même derrière Jurgen Klopp et qui a maintenu une qualité de jeu similaire, si ce n'est supérieure après lui. Donc voilà, là il y a rien à dire là-dessus. C'est un super tacticien et un super entraîneur. Mais, comme David l'expliquait dans l'émission de Jean-Michel Larquet tout à l'heure, c'est un entraîneur qui est têtu. C'est un entraîneur qui est extrémiste. C'est un entraîneur qui, voilà, n'est pas, c'est pas quelqu'un qui se laisse faire. C'est un entraîneur qui a des idées assez arrêtées et qui, d'une certaine manière, aime aussi un petit peu les joueurs qui sont malléables, les jeunes à qui voilà. Il va pouvoir dire, bah, tu vois, tu vas jouer à tel poste, mais aussi tu vas jouer à tel autre poste. Pendant le match, je vais te demander de jouer, mettons au milieu et puis de repasser dans un couloir 20 minutes après. C'est vraiment un entraîneur qui aime les joueurs un petit peu soldats, un petit peu outils, qui sont des outils à la disposition de ses idées, couteau qui sont certes raffinés, mais vraiment très poussé. Là où je veux en venir, c'est que quand on regarde quel est l'ADN du Paris Saint-Germain, l'ADN du Paris Saint-Germain, en fait, depuis la naissance du club jusqu'à même depuis l'arrivée des Qataris, moi je trouve que l'ADN n'a pas changé. Ça a toujours été une équipe de stars, une équipe de VIP, l'équipe de Borrelli, l'équipe avec toutes les avec Echter, avec le maillot Echter, avec les stars en tribune quand le club est né. Ça continue maintenant avec les Qataris. Et pour moi, l'adéquation entre cet entraîneur qui est en quelque sorte un professeur extrême, extrêmement rigoureux, extrêmement discipliné.
Et l'effectif
et l'ADN du club, je trouve qu'il n'y a aucune adéquation. Tout à l'heure, on se demandait avec David, si c'était pas extrêmement important qu'un entraîneur colle à l'ADN du club, que la personnalité du coach colle à l'ADN du club, que ce soit une rencontre entre un homme et une institution. Je prenais l'exemple par exemple de Diego Simeone à l'Atlético, qui a, c'est pas juste le fait qu'il ait joué là-bas, il a vraiment la personnalité qui colle à ce club-là. Et je pense que c'est extrêmement important de trouver cette adéquation.
Juste moi j'ai un contre-exemple, par exemple pour le Paris Saint-Germain, tu évoquais notamment les années 90, le dernier titre de champion du Paris Saint-Germain avant les Qataris, c'était Arthur Georges, c'est pas du tout un mec qui collait à l'esprit glamour, au contraire, il était hyper fermé, froid, rigoureux, ça lui a même valu des critiques à l'époque, souvenez-vous de certains dirigeants du Paris Saint-Germain.
Il a été champion, mais il a pas marqué une épopée, c'est ce que...
À l'époque c'était quand même, pendant des années,
il n'a pas gagné de coupe d'Europe, il n'a pas fait
de club contre le sommet d'Europe.
Voilà, c'est pour vraiment pour avoir une réussite extrême. Simeone, enfin je te parle d'entraîneurs qui ont gagné des coupes d'Europe avec leur club. Mais il y a sûrement des contre-exemples. Mais je trouve quand même que c'est important. Mais bon, là où je veux en venir au final, c'est que Tuchel, très bon coach, ça pourrait marcher. Pourquoi pas? Parce que quand on a un entraîneur de cette qualité, même si, comme tu le disais, ça correspond pas à l'esprit du club, ça pourrait marcher. Tout comme Pochettino, comme Ali et moi, on l'évoquait pendant la coupure de pub, ça pourrait aussi marcher. Il y a aucun doute là-dessus, parce que ce sont deux, encore une fois, c'est un très bon entraîneur. Mais le vrai problème, et ce qui fait qu'à mon avis, Tuchel, Pochettino, ce que tu veux, ça sera un pansement sur une jambe de bois, c'est que le vrai problème du Paris Saint-Germain et le vrai chantier qu'il y a à faire, c'est pas de trouver un coach, c'est de refonder tout l'organigramme et toute la direction. Moi, je pense que le problème, c'est pas Emery depuis depuis le départ, même si je pense qu'Emery n'a pas forcément la carrure pour gérer un vestiaire avec autant d'ego. Mais je pense que c'est Nasser qui fait n'importe quoi depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, enfin depuis que Leonardo est parti. Je pense que il y a eu trop de guéguerres internes entre des gens qui ont trop défendu leur intérêt personnel aux dépens du club et qui ont miné le club avec toutes les fuites organisées dans la presse, les petites guerres pour un poste par-ci, un petit poste par-là. Je pense qu'Enrique est arrivé, ça comble un manque au poste de directeur sportif qui était un manque depuis des années, mais je pense que ça n'a pas réglé grand chose tant le club et l'organigramme est pourri de l'intérieur par des luttes intestines et des enjeux personnels. Donc je pense qu'avant de parler de Tourelle, de Pochettino, de qui tu veux, faut que le Paris Saint-Germain, enfin faut qu'à Doha ça se remette à l'endroit, qu'on organise le club d'une manière professionnelle et après on pourra parler du terrain.
Alors ce qui est intéressant dans ce que dit Jonathan effectivement, c'est qu'on sait que du côté du Paris Saint-Germain il y a une refondation qui est en train de se faire tout doucement. On rappelle qu'Antero Henrique est arrivé en cours de projet, il était pas son coach, il était en période d'observation là pendant un an cette saison, voir ce qui se fait. Toi qui te traînes souvent du côté du parc et au camp des loges, tu vas le savoir, mais ils sont en train un peu de refonder tout ça. C'est vrai que on a l'impression que c'est un gros chantier.
Et attends, juste un dernier truc qui fait que à mon avis je sais pas, je vais être pessimiste, mais j'ai l'impression qu'on va pas dans le bon sens, c'est qu'il y a d'un côté t'as, on va dire, Doha qui prêche pour un entraîneur, d'un côté t'as Enrique qui prêche pour un autre entraîneur. Oh, faut se mettre d'accord sur qui décide, et c'est une personne qui décide et qui organise, enfin qui fait le recrutement.
Non, ils auront tranché,
c'est quand même
justement.
Dingue.
Non.
Je vois pas pourquoi Doha aurait à se mêler de qui est le coach. Bah oui, mais si tu nommes un directeur sportif, faut respecter la chaîne.
Peut-être que la décision n'a pas été prise encore.
Attention, tu nommes un directeur sportif, pourquoi? Pour qu'il s'occupe de tout. Mais c'est pas lui qui peut prendre spécialement la décision à 100%. Maintenant, ils ont quelqu'un qui travaille bien, je pense qu'il est en train de faire du bon boulot. Mais là, comme l'a dit Nicolas, et je l'ai vu plusieurs fois, et Nasser me l'a présenté, il est en observation. Ça se voit, c'est clair. Et pendant tout un an, il a demandé beaucoup de choses avant de venir aux dirigeants qatari, qui lui ont donné feu vert, oui, parce qu'il est arrivé après. Alors et là, je pense que, en adéquate avec les dirigeants qui sont propriétaires et qui ont mis énormément d'argent, donc c'est la moindre des choses, c'est de vouloir aussi un style d'entraîneur. Ils veulent pas simplement un style d'entraîneur qui gagne. Ils veulent un entraîneur aussi qui donne du spectacle et qui gagne en même temps, ce qui est dur à avoir pour le Paris Saint-Germain. Mais par contre, l'organigramme du Paris Saint-Germain, il n'est pas si compliqué que ça. Tu as les propriétaires et il manquait un directeur sportif qui va trouver en adéquation, comme tu as dit, avec les dirigeants, l'entraîneur qu'il faut pour ce groupe et pour le Paris Saint-Germain.
On va rester sur
et ça, Thomas... je pense qu'ils vont y arriver à eux deux.
On va rester sur Thomas Tuchel puisque c'était ton avis. David, je me tourne vers toi. L'info à la base, elle est partie du Bild. Alors l'équipe derrière a enquêté, RMC Sport a enquêté également. On en parle beaucoup de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain, du coup en Allemagne, j'imagine.
Oui, alors surtout, on avait remarqué que Tuchel, qui est l'un des entraîneurs les plus en vue en Allemagne,
ne signe nulle part.
Klopp, avec les entraîneurs que vous connaissez, était courtisé quand même par beaucoup beaucoup de monde. Il y a eu le Bayern.
Il est libre depuis la fin de
Bayern,
saison dernière, on le rappelle.
Ouais. Séville, Chelsea, Arsenal aussi, c'était une piste sérieuse. Et maintenant Paris Saint-Germain. Ça veut quand même dire que cet entraîneur-là, et Jonathan le disait et je le confirme, c'est quand même, il fait partie de la crème des entraîneurs en Allemagne. C'est-à-dire que ce sont des entraîneurs comme les jeunes Klopp, Tedesco et Nagelsmann, qui sont en train de percer actuellement en Bundesliga. Ce sont des entraîneurs qui sont les premiers de la classe, qui sont au premier rang au niveau des notes dans leur formation, et donc ce sont des entraîneurs qui ont un énorme bagage tactique, technique, un énorme bagage de travail. Lui d'ailleurs, c'est un bourreau de travail qui a suivi son modèle Pep Guardiola pour essayer de s'en inspirer au maximum. Ça c'est une chose, et ça peut rassurer sur l'aspect compétence. Évidemment, ça peut rassurer un club comme le Paris Saint-Germain. La difficulté avec Thomas Tuchel, c'est que il est non seulement parti de Dortmund, on le sait, avec un désaccord qui a été grandissant avec ses dirigeants lorsqu'il y a eu l'épisode malheureux de l'attentat sur l'autocar de Dortmund. Le lendemain, il a dit « on ne doit pas jouer parce que je protège mes joueurs » et son président lui a imposé, l'a contraint de le faire. Et à partir de là, c'était la fracture, c'était définitif, il n'y avait plus d'entente possible. Ça, c'est ce dont on se souvient le plus, mais ça a été pareil aussi à Mayence précédemment, où il est parti en année sabbatique en disant, sur un coup de tête, on avait l'impression de l'extérieur, j'en ai marre, ça suffit, je veux plus vous voir, je m'en vais. Et ça, c'est une preuve de caractère qui est à double tranchant. Et je suis assez d'accord avec Jonathan sur le fait de prendre un risque lorsqu'on prend un entraîneur comme ça, parce qu'il ne se laissera pas faire, ni par des joueurs, ni par un staff médical, ni par des dirigeants. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte.
Donc David, tu le vois beaucoup plus dans un club comme Arsenal, où là, il pourra, je pense, s'il remplace Arsène Wenger, avoir les pleins pouvoirs et pouvoir faire avec ce
club. Il va les demander de toute façon.
avec ce groupe-là, par contre, faire du super travail.
Alors, attends, ça, t'as entendu ce qu'il vient de dire, David? David vient de nous dire que Tourelle, s'il se mettait d'accord avec un club, il demanderait les pleins pouvoirs. Est-ce que tu penses que Doha serait, toi qui connais bien là-bas, est-ce que tu penses que Doha serait prompt et prêt
maintenant, c'est Enrique.
C'est qu'Enrique est arrivé il y a un an avec cette promesse-là. Si derrière, ils prennent un entraîneur en disant, c'est lui qui a les pleins pouvoirs, il va y avoir un problème.
Non, c'est Enrique qui a les pleins pouvoirs maintenant. Point okay. À la ligne.
Mais en gros, David, ça t'étonnerait de voir Tourelle débarquer au PSG ou finalement pas plus que ça?
Non, ça m'étonnerait pas parce que c'est un entraîneur qui veut se frotter au tout meilleur et pour l'instant c'est un fait, c'est un palier qui est inconnu et c'est une question à laquelle on pourra pas répondre ce soir. Il n'a pas eu à gérer des superstars, il n'a pas eu à gérer le top niveau.
Quand il a eu, on va dire, à le faire à son échelle, ça s'est pas toujours bien passé avec Aubameyang par exemple.
Oui, alors c'est vrai que il n'emporte pas l'adhésion de tout le monde. Par exemple,
il y a eu des problèmes une fois que Tourelle était parti aussi.
Aussi, oui.
Ouais, alors par exemple Mats Hummels qui est maintenant au Bayern semble ne pas vouloir retravailler avec un entraîneur comme ça parce que il est trop intrusif, il est trop contraignant sur on en parlait tout à l'heure sur la nutrition, sur des points très précis, c'est un homme qui est très très
très méticuleux
sur les détails. Et en revanche, il faut pas oublier ça, mais peut-être que pour le PSG c'est secondaire. Il est très très fort pour faire sortir des jeunes. Il l'avait fait avec Schürrle et Holtby à Mayence. Il l'a fait avec Dembélé aussi et Pulisic et autres
Weigl
à Dortmund. Ouais. Là-dessus c'est très fort. Mmh. Là-dessus c'est très fort. Mais c'est pas la même chose que gérer des égos comme Ibrahimovic ou Thiago Motta ou Neymar, c'est sûr.
Donc c'est beaucoup mieux pour Arsenal, je pense.
Sans doute plus adapté, mais
t'as aussi des personnalités, mais c'est vrai que c'est différent, c'est pas le même projet.
C'est différent quand même.
On va accueillir Momo, supporter du Paris Saint-Germain, qui nous a appelé au 32-16. Salut Momo.
Salut, bonsoir à tous.
Salut Momo. Bienvenue Momo, bienvenue dans l'after Momo.
Alors
Momo, qu'est-ce que tu penses de l'avis de Jonathan qui dit que c'est pas le moment de prendre Thomas Tuchel? Est-ce que toi, ça t'étonnerait de le voir arriver? Est-ce que t'aimerais avoir Thomas Tuchel comme entraîneur ou pas? On a David qui vient de nous présenter un petit peu mieux le technicien allemand.
Mais alors déjà, parce que j'ai pu entendre un petit peu avant, très intéressant ce qu'il a dit David, j'ai bien écouté ce qu'il a dit, avant même qu'il m'apprenne ces infos-là, je voulais vous commencer par dire, mais quel risque que prend mon club de cœur, parce que de ce que j'entends, Lala, il est très performant.
Kenny Lala?
Il est le Thomas Tuchel, il est très performant. Mais le problème, c'est que est-ce qu'il sait gérer les caprices de stars? Parce que on a d'un côté Nasser qui lui bichonne les stars et il le met pas dans les bonnes conditions. J'ai pas l'impression qu'il lui a tout dit. Donc là maintenant. Pour moi, je vois pas simplement un clash qui peut arriver avec un joueur qui va faire la gueule parce qu'il l'a mis sur le banc parce qu'il est pas performant. Là, ça peut même arriver aboutir à un clash avec Nasser, quoi, en fait, en gros, de vu l'attitude du gars. Donc, moi, je m'attendais à quelqu'un qui est, en fait, je vais donner juste deux catégories d'entraîneurs auxquels j'attendais. Soit le papa qui est un peu respecté, style Ancelotti. Donc, j'ose vous dire, j'aurais même aimé un retour d'Ancelotti. Soit un entraîneur, une ancienne gloire qui va avoir, vous savez, ce petit truc qui fait qu'il va être écouté dans le vestiaire, qui va savoir remobiliser. Voilà. Donc là, on a
mais c'est-à-dire, ancienne gloire, ça veut dire quoi?
Zidane, Diego Simeone, enfin, gloire.
Tu veux dire un entraîneur qui ait le charisme et la pédagogie suffisante pour faire qu'un vestiaire composé de fortes têtes reste harmonieux.
Voilà, qui a la crédibilité parce qu'il a fait.
Comme Carlo Ancelotti, par exemple, c'est ça?
Carlo Ancelotti, lui, il est dans les deux catégories. Ah oui, parce qu'il a à la fois le bon papa, qu'on va tous écouter, et en même temps, c'est une ancienne gloire avec qui il a communauté, tout, etc. Donc lui, il a les deux. Donc pour moi, c'est vrai que moi, si vous me demandez, j'entends, oui, Diego Simeone, Antonio Conte, mais pour moi, j'aurais aimé qu'on fasse revenir Ancelotti.
Imaginez si Diego Simeone ou Antonio Conte au Paris Saint-Germain. Mais au bout d'un mois, ça part en vrille.
Parce que
en termes de style de jeu, ça correspond pas à ce que le Qatar souhaite pour le PSG. Donc,
ça part en vrille, sauf que eux, ils peuvent se mettre devant la terre, droit dans les yeux, et leur dire, c'est comme ça que ça doit être. Au moins, eux, au moins, ils vont se...
Et vous savez quoi? Il y a un truc quand même, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs un petit peu quand on préparait l'émission, mais moi, l'argument de dire il faut un mec qui sache gérer des stars, qui soit le papa, comme tu dis, ou qui soit là, qui ait de la poigne, etc. Les gars, le Paris Saint-Germain, ils ont fait un organigramme, ils ont nommé un directeur sportif il y a un an qui est censé être là pour régler les litiges quand ils peuvent exister entre les joueurs et les entraîneurs. Alors, on a vu la fin de saison, elle part un peu en eau de boudin où chacun parle de son côté. Mais encore une fois, ils sont en train de refaire le truc. Mais demain, ils peuvent très bien choisir un entraîneur qui sera entraîneur et pas manager, on va dire à l'anglaise entre guillemets, et avoir un Antero qui gère les conflits, par exemple.
Enrique, depuis qu'il est arrivé, j'ai trouvé que cet été, quand il a débarqué, je l'ai trouvé relativement strict et bien dans son rôle, notamment sur l'épisode Marco Verratti. En revanche, quand on voit comment la saison s'est déroulée du Paris Saint-Germain et qu'on voit toutes ces péripéties, toutes ces bêtises de joueurs, le truc de penalty, les trucs de fête d'anniversaire, les trucs de machin, de choses, de ces Thomas Meunier qui annonce dans la presse qui annonce en conférence de presse qu'Emery va partir, et puis Di Maria quand même une couche. Qu'est-ce qui tient ce club là? Enrique, il fout plus rien. Alors soit c'est parce qu'il aime pas Emery et qu'il a envie que tu lui dis voilà, Emery va se casser. Voilà,
c'est pas qu'il l'aime pas, mais je pense que c'est pas son choix.
Mais même si c'est ça le cas, c'est pas pro du tout. C'est quoi comme comportement? On t'a nommé pour être le cow-boy, fais le jusqu'au bout.
Je comprends pas. Je veux dire, en fait, par rapport à ça, maintenant, pour les supporters parisiens qui ont bien compris, qui ont bien vécu l'air qatari, vous n'avez pas l'impression, même vous, vous n'avez pas l'impression que il y a des postes, entraîneurs compris, où ils sont pas à la hauteur du reste de l'équipe. Gardien, arrière-gauche, et entraîneur, je veux dire, à part Ancelotti et Laurent Blanc, que quand même j'intègre dedans, parce que lui, c'est une ancienne gloire, et même s'il a eu des critiques, quelque part, il a réussi à gérer quand même, je trouve, et j'ose le dire, voilà, donc je mets Ancelotti et Laurent Blanc, mais après, mais qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi ils mettent pas une star comme entraîneur, tout simplement?
Parce que la plupart des grands entraîneurs ou des stars étaient sous contrat, et ils avaient d'autres plus grands clubs intéressants que le Paris Saint-Germain. C'était surtout ça.
Allez, faut qu'on file. Dans quelques instants, on se projettera sur des affiches de Ligue 1 également qui auront lieu ce week-end. Il y aura les matchs de Lyon également et de Marseille. On vous attend au 32-16 également. Je vous donne mon avis dans quelques instants. On aura des news également sur ce qui s'est passé entre Le Havre et Quevilly-Rouen en Ligue 2, envahissement de terrain à la fin du match. On sera dans quelques instants avec Christophe Lécuyer, David Lortolari. On le retrouve dans une demi-heure avec son avis tranché sur l'Allemagne. À tout de suite.
RMC, le Super Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
Et dans l'After, avec Ali Benarabia, avec Jonathan McCarthy, avec vous sur le hashtag RMC Live. Vous êtes très nombreux également du rugby ce soir, quart de finale du Challenge européen. Paul Lafitte suit le match entre la section paloise et le Stade français Polo.
Avec la victoire finale sur le fil de la section paloise qui se qualifie donc pour les demi-finales de cette Challenge Cup, la petite Coupe d'Europe. Une victoire au forceps 35-32. Les Parisiens qui auront joué le coup jusqu'au bout, qui auront fait la guerre jusqu'au bout, menacés par la relégation en top 14. Eh bien, ils ont brillé ce soir sur cette pelouse du Havreau. Ce n'est pas suffisant pour s'imposer. Les Bernais seront donc en demi-finale face à Édimbourg ou à Cardiff. La rencontre se disputera demain. Et si Édimbourg s'imposait à domicile, eh bien, la demi-finale aurait lieu ici même au Stade du Havreau dans 3 semaines. Victoire finale donc des Palois face aux Parisiens. On rappelle le score 35-32 ici au Stade du Hameau.
Merci beaucoup, bonne soirée à toi, bonne Paul. Bonne et Newcastle qui a battu Brive 22-10.
Ça a arrangé le Stade français non plus de ne pas gagner, parce qu'ils sont focalisés surtout sur le maintien, beaucoup plus sur la Coupe d'Europe, sinon ça leur aurait fait encore des matchs.
Il y avait également de la Ligue 2 ce soir, 31e journée de Ligue 2. Alors en Normandie, au Stade Océane, Quevilly-Rouen a remporté le derby face au Havre, victoire 2-0. Et il y a eu des incidents en fin de match. Christophe Lécuyer qui a suivi ce match pour nous est en direct dans l'After. Salut Christophe.
Bonsoir messieurs, bonsoir à tous.
Alors Christophe, explique-nous qu'est-ce qui s'est passé en fin de match. Il y a eu un envahissement de terrain de la part de supporters du HAC, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Fin de match très tendu hein, ici au Stade Océane. Alors, ce qui s'est passé succinctement, voilà, c'est que QRM menait 1-0, un but marqué en tout début de match. Et ce qui a déclenché le début des événements, eh bien, c'est ce deuxième but marqué par Mamilon à la 85e minute. Et là déjà, au moment de ce deuxième but, certains supporters du HAC ont tenté de pénétrer sur la pelouse, mais rapidement contenus par les stadiers du Havre. On craignait évidemment la réaction de ces supporters havrais au coup de sifflet final de Monsieur Castro avec cette victoire de QRM. On rappelle que c'est un derby, évidemment que c'est un match en jeu pour des Havrais qui se devaient de gagner pour continuer à espérer à la montée en Ligue 1. Et finalement, au coup de sifflet final, eh bien, les Havrais sont rentrer tranquillement au vestiaire. Les supporters étaient relativement calmes jusqu'à ce que les joueurs de QRM, qui eux étaient restés sur la pelouse pour aller évidemment célébrer leur victoire avec les supporters, eh bien ça a déclenché un nouveau mouvement de colère des supporters du Havre qui sont sentis un petit peu provoqués et qui là ont réussi à pénétrer sur la pelouse. Alors une centaine au départ, puis 200 à 300 supporters qui ont voulu en découdre en fait avec leurs homologues de QRM et les joueurs de QVI qui, comme je vous le disais, étaient restés sur la pelouse. Heureusement, les CRS étaient situés à proximité. Ils étaient une cinquantaine, hein, les CRS. Ils sont aussitôt rentrés sur la pelouse. Ils ont réussi à repousser les supporters havrais, mais vraiment, cette fin de match qui s'est déroulée dans une atmosphère très, très, très tendue ici. On a évidemment posé la question tout à l'heure à Oswald Panchaud, hein, l'entraîneur du HAC. Les supporters du Havre ont demandé sa démission. D'ailleurs, ce soir, en seconde mi-temps, il a tenu, lui, à relativiser, à saluer quand même le bon match de son équipe qui, c'est vrai, a tiré 14 fois au but ce soir, qui a cruellement manqué de réussite et d'efficacité. Mais malgré ça, il faut bien avouer que la saison s'annonce quand même très longue du côté du Havre.
Merci pour ces indications, Christophe. Merci, bon retour, Christophe.
Merci, messieurs, bonsoir. Merci.
Salut, Christophe.
Incompréhensible.
C'est vrai que la Ligue a du taf en ce moment.
Non, c'est pas ça.
Il y a des supporters qui sont un peu disciplinés.
Incompréhensible l'intelligence des joueurs de Kevin Rouen, sachant qu'il y avait déjà eu un peu un débordement, retourner sur la pelouse pour aller saluer alors que tu sais que ça peut mal se passer ou envenimer la chose. Ça, j'arrive pas à comprendre, et que même l'entraîneur et les dirigeants disent vous restez dans le vestiaire, vous ne bougez pas, ça se passe pas trop bien, on va laisser que tout se calme tranquillement. Non, il les laisse repartir sur la pelouse.
Je vais vous donner mon avis tranché, messieurs, et ça n'a rien à voir avec la finale de la Coupe de la Ligue demain entre le PSG et Monaco.
C'est l'exclusion de Marcelo Oliveira qui leur a un peu facilité la tâche.
J'avais oublié cette histoire, c'est merveilleux.
Ça fait tâche.
Et ben moi, ça concerne l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais qui joueront demain et dimanche. Alors demain, il y a aussi donc Dijon-Marseille. Dimanche, il y a Lyon-Toulouse. Alors c'est vrai que ça a l'air facile, hein, comme ça, quand tu regardes, face à deux équipes qui jouent le maintien, même si Dijon est un peu plus peinard que Toulouse. Sauf que l'OM va jouer l'une des meilleures équipes à domicile de la saison. Ouais. Dijon, c'est la quatrième meilleure équipe à domicile cette saison en championnat. Lyon va jouer en mort de faim. Et surtout, bah, il y aura beaucoup d'absents de part et d'autre. Alors à Marseille, on l'a appris ce soir, Sakai est blessé. À ma vie, en plus, est suspendu. Ça veut dire qu'il y a une grosse incertitude pour le couloir gauche de la défense. On parle d'Ocampos, voire d'Abdenour également dans ce couloir de la défense. L'OM qui a pas mal de doutes, hein, ces derniers temps défensivement. Ça fait 8 matchs qu'ils encaissent au moins un but par match, les Marseillais.
Abdenour
ou Ocampos, ouais. Dans le couloir gauche, très certainement. Thauvin est forfait, lui aussi.
Et même Bédimo, il est apte.
Il y a les problèmes défensifs, mais Thauvin est forfait, lui aussi. Du côté de Lyon, il n'y a pas de Fekir, il n'y a pas de Mariano. Édouard G a calculé, info Édouard G. Les deux fois où les deux ont été absents cette saison en même temps, il y a eu deux défaites pour Lyon. C'était face à Montpellier, c'était face à Caen en Coupe de France également. Lyon qui va jouer à domicile, alors on peut se dire c'est un avantage, sauf que Doudou a calculé là aussi. Ils ont perdu 16 points à domicile cette saison en 14 matchs, c'est énorme. Il y a beaucoup de matchs d'ailleurs où ils ont mené et ils se sont fait reprendre également. Moi, mon avis, c'est que la course au podium ce week-end, elle ne jouera pas à qui sera le plus fort, mais à qui sera le moins faible. Et le moins faible peut gagner gros ce week-end. C'est vrai que c'est un peu curieux, finalement, ces deux gros favoris. Et ce week-end, on a l'impression qu'ils ne le seront pas forcément Lyon et Marseille.
Ouais, attention, faut faire attention parce que Dijon est très bien à domicile. Marseille est dans l'obligation de prendre des points puisqu'ils ont perdu contre Lyon. Donc c'est ça qui peut plus leur mettre la pression que s'ils avaient battu Lyon. C'est surtout ça. Et Lyon, par contre, maintenant, ils n'ont plus le droit au moindre match nul à Lyon. Là, jusqu'au bout, il faut absolument qu'ils prennent les trois points s'ils veulent avoir une chance de passer devant Marseille.
Mais tu sais, moi je me souviens, on avait eu des débats ici dans l'after, on n'était pas forcément d'accord. Beaucoup disaient que, notamment Marseille qui a du mal face au gros, allait très certainement perdre le championnat face au gros justement. C'est souvent les matchs de fin de saison comme ça, face à des équipes qui ont l'air faciles. C'est les matchs qui puent, quoi. C'est les matchs, les fameux matchs piège.
C'est effectivement, le match contre Dijon va être compliqué. C'est pas tant l'absence de Florent Thauvin qui m'inquiète, parce que je pense que le potentiel offensif marseillais est suffisamment large
pour marquer des buts.
Oui. Qualité pour marquer des buts. En revanche, c'est vrai que ça cause un vrai problème parce que t'as une vraie faiblesse, enfin une faiblesse non, parce que t'as trois latéraux qui sont d'un très bon niveau, je pense Bounassar, Hiroki Sakai et Jordan Amavi, ces trois latéraux qui donnent satisfaction. Et le problème, c'est que par exemple là il y a une tuile et Bédimo, on va pas le ressortir du congélateur comme ça parce que ça serait un petit peu risqué. Le petit Rokia que je trouve
Garcia, apparemment il a peur de le faire jouer.
Il y a Bouba Camara qui peut éventuellement jouer latéral, mais au poste de latéral droit. Ouais. Et encore, c'est pas son poste. Et Garcia,
Ocampos, c'est pire.
En sentinelle.
Ocampos,
écoute,
c'est pire.
moi, c'est vraiment sur les côtés que ça m'inquiète. Dijon, justement, sont pas trop mal sur les côtés en plus. Voilà, c'est le petit point d'inquiétude. Après, quand on regarde les forces en présence, quand on regarde qui va jouer, Marseille se doit de gagner. Quatrième à domicile, oui. Dijon ou pas, Marseille se doit de gagner. Et Marseille doit, si Marseille ne gagne pas, c'est une très 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 grosse contre-performance. Et donc, ça serait pas perdre gros ou gagner gros. Enfin, ça serait pas perdre gros. Ça serait juste, si tu gagnes pas contre Dijon, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, quoi.
Tu peux pas aller spécialement chercher la troisième place si tu vas pas t'imposer.
Exactement.
À Dijon.
Exactement.
Mais attends, Dijon,
la
mérite
pas la domicile.
Place, tu gagnes pas. En extérieur, je crois que c'est la pire. D'ailleurs, c'est la pire défense du championnat tout court. Mais à l'extérieur, ils ont beaucoup de mal. C'est l'une des pires attaques. Mais alors à domicile, les mecs sont chauds.
Ah non, à domicile, c'est pas chaud.
Si tu veux être troisième,
ils jouent bien, ils se créent des occasions contre les petits et les gros à Dijon. Et c'est ça qui est important. Mais Marseille, on le voit souvent, a cette faculté contre les petits à les attirer parce qu'ils se disent ben regarde, on peut quand même bousculer cette Marseille. Et c'est là qu'ils en profitent. Bon, ils en profitaient surtout avec notre ami Thauvin qui claquait but sur but. Là, il faut que les autres prennent vraiment le relais jusqu'à la fin de saison.
Je pense que le retour en forme de Payet arrive à point nommé pour justement prendre le relais d'un Thauvin qui est un petit peu émoussé. Mais Ali, t'as tout dit. Hein, si t'es pas capable de battre Dijon,
tu vises pas la
troisième place, tu la mérites pas. Parce que
après,
ça,
c'est
en Ligue des Champions. Ça, pour moi, ça veut rien dire.
Non,
mais si Dijon, les mecs, ils sont quatrièmes à domicile et que voilà, ils ont fait des résultats face à d'autres grandes équipes, ça veut rien dire.
Non, mais Nico,
enfin, le championnat, le principe, c'est que c'est sur une saison.
Oui, non, ça oui. Mais là, on le sait très bien. J'ai vu beaucoup d'équipes être très bons. On l'a vu. Des Caen, des Angers, ça et tout. Mais c'est toujours dans les 5-6 dernières journées que tu vois les gros. C'est là que les gros, ils apparaissent. C'est là qu'ils s'imposent. Même si Dijon va gagner tous ses matchs avant à domicile, c'est en général là aussi que les petits perdent des points.
On poursuit ce débat dans quelques instants. Il faut qu'on file. On sera avec Lionel et Faisal qui nous a appelé au 32-16. On vous attend également au 32-16. Dans quelques instants, on sera aussi avec nos drôles de dames, Simon Hérault, Vera, Philippe Auclair et David Nortolari. L'after revient juste après ça.
Il bosse beaucoup, David.
RMC, le super football show, l'after foot.